Chapitre 8. Les oignons. Les sourires se décrispent, les langues se délient, les regards se croisent. Doucement, l'apprivoisement opère. Une certaine méfiance tient encore lieu de paravent pour Jérôme, mais il commence doucement à digérer. Le rumen travaille. Il en serait presque à trouver l'herbe fameuse. Mais pour l'instant, il se contente de se nourrir de leur présence, comme l'homme sans appétit avale des mets sans goût seulement pour tenir debout. Au moins, il tient debout. Peut-être est-ce ce qui lui a le plus manqué après la mort d'Irène. De chaleur humaine. Pas physique, pas forcément. Un regard, un sourire, de la bonne humeur, un arc-en-ciel de gens de toutes les couleurs qui viennent se poser autour de vous pour signifier que d'autres cœurs continuent de battre. Ce matin, au petit déjeuner, Ludovic a sorti la boîte de peinture et le pinceau. Il dessine de grands traits arrondis sur une feuille. Le bout du pinceau trempe régulièrement dans le godet bleu. « Regarde, maman, j'ai fait un arc-en-ciel bleu !» lui lance-t-il. Elle le regarde avec bienveillance. Et puis, il ajoute en saisissant une nouvelle feuille de papier « Maintenant, je vais faire un arc-en-ciel jaune !» « Il parle bien, » constate Jérôme. « C'est dommage que le R ne sorte pas. » « C'est comme les larmes, parfois c'est dommage que ça ne sorte pas, » répond Julie. « Et puis un jour, ça finit par venir. » Jérôme lui sourit simplement. Il regarde son père qui s'active à la cuisine. Il a sorti une recette de blanquette de veau qu'il suit à la lettre, pesant même le sel, ce qui fait sourire Julie. Elle qui considère que la cuisine est instinctive. Jérôme la trouve plutôt rébarbative. La cuisine, pas Julie. Plus Julie. Voilà que Paul pleure à grosses larmes. Les oignons. Il s'acharne en clignant des yeux de plus en plus fort et finit par lâcher brutalement son plan de travail en se précipitant au dehors à tâtons pour essayer de les ouvrir à nouveau au contact de l'air marin. Julie se lève sans un mot et poursuit le travail d'épluchage. « Ça ne vous fait pas pleurer, vous, les oignons ?» demande le jeune homme après quelques minutes. « Non, je n'ai pas la larme facile. » Et vous me faites une remarque sur les miennes qui ne voulaient pas sortir. Il faut savoir pleurer quand c'est vraiment nécessaire. Pour un oignon, je ne vois pas trop la raison, à moins d'avoir une tendresse particulière pour ce légume et ne pas supporter de le couper en deux. Votre père a une tendresse particulière pour les oignons? C'est juste chimique. Qu'est-ce que vous allez chercher comme explication bancale? Je vous charrie. Je n'ai jamais pleuré avec les oignons. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont une hyperlaxité des orteils ou d'autres la capacité à tirer la langue en tunnel. Eh bien moi, les oignons ne me font pas pleurer. Je devrais me faire embaucher dans un restaurant de tartes flambées. Éplucheuse d'oignons, c'est un beau métier ça. Vous épluchez les hommes, c'est déjà pas mal. Moi, j'épluche les hommes, s'étonne Julie. Vous enlevez une couche après l'autre en dévoilant la couche d'en dessous. Et en les épluchant, c'est eux que vous faites pleurer. Vraiment? C'est involontaire. Paul revient à ce moment-là en s'essuyant les dernières larmes d'un revers de manche pour ne pas se frotter les yeux avec les doigts encore couverts de substances nocives. « Là, c'est vraiment les oignons !» se défend Julie en le désignant du doigt. Paul montre un ostensible soulagement en voyant que Julie a terminé cette phase de la recette. Il l'embrasse sur le front en lui glissant qu'il en faut peu pour être heureux. Parfois très peu. « Je peux sortir le bateau aujourd'hui ?» demande alors Jérôme à son père. « Oui, si tu veux, la révision a dû être faite. Demande quand même à Léon sur le port. Emmène Julie !» lui suggère-t-il après avoir laissé passer quelques instants. « Ah non, non, non !» se défend la jeune femme. « Je n'ai pas le pied marin. Je veux bien courir dans le sable, mais naviguer sur les flots, non, non, ce n'est pas pour moi. »« La mer est calme !» précise le jeune homme. « Il y a toujours des vagues !» renchérit Julie. « Vous épluchez les oignons sans pleurer, mais moi, j'ai une hyperlaxité des orteils, je sais mettre ma langue en tunnel, regardez » dit-il en le faisant pour appuyer son propos, et surtout, je sais naviguer sur l'Atlantique sans paniquer. « Ok, je viens. » « Il faut vous piquer dans votre orgueil pour que vous changiez d'avis ?»« Et Ludovic » demande-t-elle. « Je le garde, » répond Paul. « Je suis en train de m'améliorer au memory, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. »« Vous vous entraînerez seul l'après-midi quand il fait sa sieste. » « Tu pourras réfléchir à l'idée de me tutoyer sur le bateau, » précise Paul désespéré. Après avoir couché Ludovic, Julie attrape quelques affaires pour se changer au cas où la mer monte. Elle a la trouille, mais elle y va. C'est vrai, elle n'aime pas perdre la face. Avec un gilet de sauvetage, elle ne devrait pas prendre trop de risques. Et puis, ils ne traversent pas l'Atlantique. Ils vont certainement longer la côte. Une ou deux heures, et elle lui aura prouvé qu'elle épluche les oignons sans pleurer et qu'elle ne panique pas en mer. Pour la langue en tunnel, ça fait 3 ans qu'elle essaie. Il paraît que c'est génétique, qu'elle n'y arrivera jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Alors elle y croit, et elle s'entraîne devant sa glace. L'inclinaison des bords commence à prendre forme. Quand elle monte dans le 4x4 garé devant la maison, Jérôme l'accueille en souriant. « Détends-toi. On se tutoie maintenant. Nous allons vivre d'intenses moments, autant se tutoyer. C'est censé me rassurer. Non, te détendre. Ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce que tu risques ? Ce que je risque à aller en mer ? Une attaque de requin ? Nous sommes en Bretagne, pas sur l'île de la Réunion. Un naufrage ? Pas d'iceberg par ici. Un kidnapping avec demande de rançon. Mon père a de quoi payer. Ah, c'est malin, ça. C'est surtout vrai. D'être avalé par une baleine ? Poursuit-elle avec un peu moins de conviction. Tu lis trop la Bible ou tu regardes trop les Walt Disney avec ton fils ? Se moque-t-il. De ne pas retrouver notre chemin vers la terre ferme ? Nous irons à l'opposé du soleil couchant, ça nous ramènera vers la côte. À court d'arguments, Julie finit par se taire. Elle déteste avoir tort. Elle déteste montrer ses faiblesses et ses peurs. Elle déteste montrer qu'elle est frêle. Elle déteste aller en mer, parce que c'est nouveau pour elle. Elle déteste ce qui est nouveau. Quand ils se garent sur le petit parking du port, Julie scrute les bateaux arrimés là, à chaque corps mort, en cherchant à sentir lequel lui fera quitter la terre ferme. L'étoile filante se démarque des autres. Un bateau simple, coloré, sans fioritures, mais bien entretenu. Elle espère un peu celui-là. Le nom lui plaît. Jérôme, qui était allé se renseigner auprès de Léon, revient le sourire aux lèvres et tire la langue à Julie en passant à sa hauteur. En tunnel, évidemment. Elle lui répond par une grimace. Elle y arrivera un jour. Révisé il y a une semaine. Il n'attendait que nous, lui lance Jérôme, qui délie la corde de l'annexe en lui suggérant de monter dedans. C'est ça, le bateau ? Non, c'est le moyen d'atteindre l'étoile filante. Julie sourit. C'est l'étoile filante. Il y a des gilets de sauvetage ? Reprend-elle. Et même des fusées de détresse. Mais nous n'en aurons pas besoin, la mer est calme. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Menteuse. Arrivé à hauteur du bateau, Jérôme arrime l'annexe et tient Julie par la main pour la faire monter à bord. La barque tangue. Elle se tient comme elle peut, en se demandant pourquoi elle s'est mise dans cette galère. Juste pour une question d'orgueil. Voilà un comportement profondément ridicule. Elle y est, c'est trop tard. Assume, ma belle. Ça t'apprendra l'humilité. Jérôme la rejoint dans la petite cabine où il enclenche le moteur et manœuvre pour sortir le bateau du port. Elle le regarde faire, intriguée par son aisance. L'explication ne tarde pas à venir. Il lui raconte les sorties en bateau avec son père, après la mort de sa mère. Ces moments de complicité durant lesquels la solitude de l'océan leur faisait du bien, loin des autres, loin de ceux qui n'avaient pas idée de la déchirure qu'ils devaient gérer au quotidien. Ce qui, donc, n'en tenait pas compte, marche ou crève. Du haut de ces quelques années, il a vu plus d'une fois dans les yeux de son père cette envie de crever pour la rejoindre. Un père qui a pourtant choisi de marcher pour son fils. À lui aussi, depuis quelques mois, l'envie de crever lui a traversé les tripes. Parfois, en s'y attardant dangereusement. Mais cet après-midi, sur le bateau, il ressent ce sentiment d'apaisement inespéré. Sans savoir si c'est cette fille, son môme attendrissant, son père, dur mais bienveillant, ou l'ensemble qu'il forme dans cette escapade bretonne. Ou alors le footing sur la plage, la raclée du siècle qu'il s'est prise dans les dents et qui a servi de détonateur à tout ce qu'il gardait sous le couvercle. Peu importe. Même s'il sait que ce n'est pas gagné, qu'il faudra encore du temps, la seule chose qui compte, c'est de remonter vers la surface. Quel que soit l'angle ou la vitesse d'ascension. La surface. Rien que de ressentir qu'elle existe encore lui met du baume au cœur. Il croise quelques bateaux qui reviennent au port. Eux sont sortis tard. À moins de ne faire qu'une minuscule virée, ils rentreront dans la nuit. Mais Jérôme aime l'idée d'être plongé dans cette immensité magique, accentuée par la pénombre. Il se plaît à s'imaginer au large, moteur du bateau coupé, faisant face au phare, le voyant s'illuminer régulièrement, un petit point à peine luisant tant il est loin et sentant derrière soi l'épaisseur de la nuit. S'approcher ainsi de ce que ressentent peut-être les papillons de nuit. Mais ils n'y sont pas encore. La fin d'après-midi est belle, le ciel lumineux. Ils longent la côte sauvage, magnifique, contournent Quiberon et se dirigent droit vers l'entrée du golfe du Morbihan. Jérôme lui indique la statue de Notre-Dame de Kerdros, qui veille sur les bateaux qui empruntent ce goulet, sur la pointe de Kerpenir, en lui contant sa légende. Cette zone est délicate à franchir, les courants y sont extrêmement forts. Depuis un moment, la marée est haute dans la baie, elle devrait bientôt l'être dans tout le golfe. Julie découvre un paysage incroyable. Elle aime la montagne, mais la mer commence à gagner son cœur. Il y a eu les vagues d'abord, il y a désormais le golfe du Morbihan. Jérôme semble connaître parfaitement les lieux, forcément, si ça fait 30 ans qu'il y vient. Après quelques heures à naviguer entre les îles, à observer la faune et la flore locale, les petites criques accueillantes, les maisons en bord d'île, en bord d'eau, les champs cultivés au milieu de nulle part, le bateau reprend la direction de Quiberon. Quelques nuances orangées commencent à colorer l'horizon juste au-dessus de la mer, tandis qu'au zénith, le ciel est encore bleu. Une première étoile s'illumine, annonçant les autres, comme l'éclaireur son armée. Une belle armée scintillante, prévue pour ce soir, d'après la météo. Il fait froid. Jérôme a emporté des pulls en laine, une grande couverture, pour plus tard. Octobre est sans pitié, même quand il a laissé le soleil briller une grande partie de la journée. « C'est pourquoi la couverture ?» demande Julie, suspicieuse. « Pour si on doit recueillir un dauphin blessé ?»«
Tu te fous de moi ?»«
Oui, pourquoi ?»« T'as prévu des choses avec moi ?»«
Un tas. »«
Du genre ?»« Te faire croire que j'aime jouer au docteur. » « Méfie-toi, je pourrais demander une consultation privée, » répond-elle provocante. « Je demande à voir, » répond Jérôme d'un petit sourire. « Bon, on arrête de jouer avec la ligne rouge ?»«
C'est mieux, oui, » confirme l'homme.
« Et donc, la couverture ?»« Quand le ciel est dégagé, on peut observer les étoiles, mais la fraîcheur est plus piquante. »« Pourquoi tu me parles d'étoiles ? On ne devait pas faire un petit tour de 2 heures et rentrer ensuite ?»«
J'ai dit ça, moi. » »«
Et Lulu ?» Lulu apprend à mon père à éprouver la dignité de ne pas perdre systématiquement les parties face à un môme de 3 ans. Il lui faudra bien la soirée pour ça. Ensuite, ils s'endormiront, sans même se rendre compte que nous ne sommes pas rentrés.
Et si je veux rentrer quand même avant la nuit?
Tu sais nager?
Non.
Tu ne sais pas nager? Reprend Jérôme sérieusement étonné.
Non, je te dis.
Alors, tu es à ma merci, ajoute-t-il tout sourire. J'adore, répond Julie, ironique. Tu connais les étoiles ?
Je connais la grande ours.
C'est un bon début.
Et si je suis malade sur le bateau ?
Tu nourriras les poissons ?
Chouette !
Poursuit Julie, tout aussi ironique. La balade s'avère finalement agréable pour Julie. Il parcourt la côte, Jérôme lui explique la géographie de la presqu'île, la baie de Quiberon, qu'il frôle belle île en mer. Puis Jérôme se concentre sur la navigation. Peut-être aussi est-il intimidé, même s'il n'a pas prévu de jouer au docteur avec Julie. Trop jeune, trop vulgaire, pas son genre. Cela dit, ses petits seins ronds moulés dans son col roulé ne le laissent pas indifférent. « Arrête de les regarder tout le temps, » le surprend la jeune femme. « Regardez quoi ?
Mes seins ?
Je ne regarde pas tes seins, menteur. Bon, allez, c'est vrai. Mais je ne fais rien de mal, ou bien ?
Bah si, justement. La couverture, la nuit étoilée... À la merci d'un docteur qui dit aimer y jouer, et maintenant, tu reluques mes seins. J'ai quand même de quoi m'inquiéter.
Je suis bien élevée, je ne te toucherai pas. Maintenant, si tu insistes vraiment, je peux faire un effort.
Même pas en rêve, lui rétorque Julie.
Toi, tu sais parler aux filles, c'est indéniable, ajoute-t-elle.
Faire un effort, si je te supplie,
j'y crois pas. Pourtant, les hommes n'ont généralement pas beaucoup d'efforts à fournir pour toucher une fille.
Ce n'est pas comme ça que je conçois l'amour.
« Moi non plus. »« Alors nous sommes d'accord, » conclut l'homme. « Donc, tu peux arrêter de regarder mes seins. »«
Je pourrais, oui, mais je ne fais rien de mal. »«
Et ça me ressource. »«
Tu veux les toucher aussi ?»
lui propose-t-elle sur un ton moqueur.
« Non, trop dangereux. »«
C'est pas des grenades ?»«
N'empêche. »« T'es en manque ou quoi ?»«
Il y a des chances, oui, » constate-t-il amèrement.
« Mais Irène, ça ne fait pas si longtemps. »
Ça faisait longtemps que nous ne couchions plus ensemble.
C'est pas la base d'un couple.
Si, quand il est équilibré. Elle était malade, profondément dépressive.
Elle ne supportait pas qu'on la touche. Un rapport au corps pathologique. Je lui disais pourtant qu'elle était belle, qu'elle me plaisait. Elle ne se supportait pas. Et toi, tu supportais ça? Avais-je le choix? Je l'aimais. On supporte beaucoup de choses par amour. Pourquoi tu l'aimais? Ça s'explique, l'amour? Première nouvelle. Non, mais tu aurais pu te lasser de cette vie de couple qui n'en était pas une. Ça allait. Je ne pouvais pas la laisser tomber pour ça. Mais aujourd'hui, ça te manque. Je ne sais même pas. Moi, je le sais. Sinon, tu ne regarderais pas mes seins comme un lion bave devant un morceau de viande. Jérôme passe ostensiblement le revers de sa main sur son menton pour vérifier. Je ne bave pas. Mais si, regarde! Dit-elle en montrant du doigt le coin de sa lèvre. Ne prends pas non plus tous les hommes pour des mâles surexcités, c'est loin d'être le cas. T'es sûr? J'ai un sombre doute. Pourquoi ta femme allait si mal? Je l'ai toujours connue mal dans sa peau. C'est peut-être pour ça que je l'ai aimée. Elle me permettait de jouer le rôle du sauveur. Ça a marché, lui fait remarquer Julie sur un ton neutre. Pourquoi crois-tu que je vais mal, que j'ai besoin de prendre le large, d'essayer d'oublier tout ça? Je me sens coupable de ne pas avoir été plus présent pour elle. Tu n'es pas responsable de sa mort. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu peux tendre la main à quelqu'un, mais tu ne peux pas le sortir du trou dans lequel il s'enfonce s'il ne prend pas la main que tu lui tends. À moins d'y tomber avec lui, ce qui ne résout pas les choses. On est à deux au fond du trou, mais on est quand même au fond du trou. Jérôme reste silencieux un long moment. Il pense à ce que vient de lui dire cette gamine qu'il prenait pour une adolescente attardée dans son jean usé. C'est exactement l'image qu'il a trouvée pour rassurer sa remplaçante. Et il fait semblant de croire que ce n'était pas valable pour Irène et lui. Et pourquoi ça ne serait pas valable pour eux? La nuit a fini de s'installer. Il a allumé les projecteurs à l'avant du bateau. On ne voit plus les lumières de la côte, seulement le phare qui scintille au loin. Jérôme s'éloigne un peu plus encore pour ne pas être gêné par sa lumière puissante, coupe le moteur et les projecteurs. Julie tressaille. Cette obscurité soudaine et ce silence à peine brisé par le clapotis des vagues sur la coque lui glace le sang. Tu es sûr qu'on ne risque rien ? Demande-t-elle d'une toute petite voix en s'approchant de lui. Moins qu'en voiture sur une autoroute. Que veux-tu qu'il nous arrive ? Que Moby Dick soulève le bateau ?
Je ne sais pas. J'ai peur, c'est tout.
Viens là, lui dit-il en la prenant dans ses bras. Ça va mieux comme ça ? S'ensuit une longue étreinte, sans qu'aucun ne sache vraiment qui réconforte l'autre. Jérôme se sent enveloppé par une sorte de chaleur qu'il irradie en profondeur. Il a peu d'expérience de ce genre d'émotion intense. En lui remonte une sensation lointaine, probablement celle qu'il éprouvait dans les bras de sa mère. Jérôme se met à pleurer doucement. « T'as emmené des oignons sur le bateau ?» lui demande Julie sur un ton sérieux. « T'en as un sacré d'oignon !» lui répond-il en riant au milieu des larmes. « Tu vois, j'avais raison, tu fais pleurer les hommes. »« Je te fais pleurer toi, arrête de faire des généralités. Et puis d'abord, je n'y suis pour rien. J'ai peur, tu me prends dans les bras et tu pleures. Tu peux m'expliquer en quoi je suis responsable ?»« Tu n'es pas responsable et je suis un con. »« C'est pour ça que tu pleures ? Tu en as soudainement conscience ?»« C'est sûr, ça doit faire mal quand on s'en aperçoit. » Tu aurais au moins pu répondre « Mais non, t'es pas un con, ça m'aurait rassuré. »
Je n'aime pas tricher. J'ai bien senti que tu me prenais pour une mauvaise fille quand je suis montée dans la voiture et pendant tout le trajet et les premiers jours.
Alors oui, t'es un con d'avoir pu le penser. C'est vrai, je suis impardonnable. La repentance est envisageable à tes yeux ?
Toujours, mais sous certaines conditions.
Je peux te faire une surprise ?
Et c'est toujours ?
Jérôme part dans la cabine en laissant Julie plantée sur le pont, dans le noir quasi complet. Elle tressaille à nouveau.
Moby Dick.
Il ressort avec un matelas sous chaque bras, en essayant de se faufiler ainsi dans l'entrebâillement de la porte. Il les jette au sol et repart chercher la couverture.
« Aïe !» s'exclame Julie. « Nous voilà donc arrivés au fameux moment de la couverture. »
« J'espère que tu seras plus réceptive qu'Irène. » Il est temps que je libère cette terrible frustration qui m'habite depuis des années.
J'ai peur, là. Tu parles de quoi?
Des étoiles.
Quelles étoiles?
Couche-toi là, commande-t-il en désignant les matelas.
Julie s'exécute sans trop savoir ce qui l'attend. De toute façon, elle ne peut pas fuir. Même si elle savait nager, l'obscurité est effrayante. Allongée sur le dos, elle le voit repartir dans la cabine et rapporter les gros pulls ainsi que deux coussins qui sentent l'humidité et l'iode. Il lui tend le plus petit des pulls en lui suggérant de l'enfiler, puis il s'allonge à ses côtés et ramène la couverture sur eux. « Maintenant, on va fermer les yeux un bon quart d'heure », commence Jérôme. « C'est ça la surprise ?»« C'est juste après. Il faut faire le noir dans notre cerveau. » « Tu me fais rire, il fait déjà plus noir que noir. J'ai l'impression d'être un suppositoire dans un derrière. Tu es d'une élégance, Julie. J'essaie de me mettre à la hauteur de ton univers. Traite-moi de trou du cul aussi. Je parle de ta spécialité, l'univers de la médecine. Bon, tais-toi et savoure l'instant. Et garde les yeux fermés. » Il reste ainsi une bonne demi-heure. Plusieurs fois, Julie a demandé si elle pouvait ouvrir les yeux, impatiente comme une gamine au pied du sapin de Noël. Plusieurs fois, Jérôme lui a répondu qu'il n'y avait aucune urgence, se délectant de la faire mariner un peu. Soit. Et puis, elle obtient enfin l'autorisation de les ouvrir, à condition de ne regarder que le ciel, et nulle part ailleurs. Elle fait remarquer qu'ailleurs, il fait noir. Mais Jérôme lui soutient que les yeux s'habituent, et que la seule chance de se laisser happer par la profondeur de l'univers est de regarder droit dans les étoiles. En écartant les paupières doucement, c'est comme si elle ouvrait le rideau d'un théâtre, tandis que l'obscurité est totale dans la salle. Elle entre alors dans la troisième dimension. La quatrième, peut-être. Longueur, largeur, profondeur et paix du cœur. Le spectacle est magnifique. La multitude d'étoiles, fascinante. C'est la première fois qu'elle en voit autant. Des petites, des grosses, plus ou moins scintillantes et colorées. Julie distingue celles qui sont plus éloignées de celles qui sont plus proches. Elle n'est plus sur le pont d'un bateau à flotter sur l'Atlantique. Elle est au milieu de l'univers. Jamais elle n'a eu l'opportunité de les observer dans de telles conditions. Une bien jolie surprise.
On va partir de ce que tu connais. Trouve-moi la grande ours. Facile, elle est là, dit Julie en la montrant du doigt. Tu sais comment repérer l'étoile polaire à partir de la grande ours?
Non.
Tu prends la base du chariot de la grande ours et tu comptes 5 fois cette distance, tu tombes sur l'étoile polaire, qui est aussi la tête de la petite ours.
L'étoile polaire, c'est l'étoile du berger.
Non, ça n'a rien à voir. L'étoile polaire est une étoile parfaitement alignée avec l'axe de rotation de la Terre, ce qui en fait une étoile immobile pour l'observateur, du moins dans l'hémisphère nord. Toutes les étoiles tournent autour de l'étoile polaire. C'est un repère pour les astronomes.
Et l'étoile du berger?
Ce n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Elle brille particulièrement parce qu'elle est très proche du Soleil. Parfois, on la voit même en plein jour.
C'est elle qui a guidé les rois mages?
Même pas. On l'appelle comme ça parce qu'elle apparaît un peu avant le coucher et disparaît un peu après le lever du soleil, c'est-à-dire à l'heure où les bergers devaient rentrer ou sortir leurs troupeaux. Pour les rois mages, c'était une comète.
De toute façon, je ne crois pas à tout ça.
Ne pas croire n'empêche pas de s'intéresser aux mythes et aux légendes et d'en tirer des enseignements. Vénus est l'étoile des femmes.
Comment ça ?
Elle doit son nom à la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine, l'équivalent d'Aphrodite dans la mythologie grecque. Ce nom évoque une très belle femme, et de nombreux termes sont construits à partir de cette racine pour signifier l'amour et le plaisir charnel. Son signe astrologique est le même que le signe biologique pour désigner la femme. Un cercle avec une croix vers le bas, symbole du miroir à main de la déesse Vénus.
Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus.
C'est un peu réducteur, mais si tu veux. En dessous de l'étoile polaire, là, maintenant, tu as Cassiopée. C'est un W, une constellation qui brille intensément.
C'est quoi une constellation?
C'est un amas d'étoiles, comme la grande ours ou la petite ours. Elles sont représentées dans le ciel pour permettre à l'astronome de se repérer. Jérôme poursuit son exposé, lui montre Uranus, Neptune, et lui annonce que Saturne devrait bientôt apparaître. Julie admire l'ampleur de ses connaissances. Ce monde
lui semblait tellement impénétrable. Elle commence à avoir froid, se rapproche sensiblement de lui, qui semble désormais s'être perdu dans les étoiles, les yeux dans le vague. Julie sait à qui il pense. Ma vie est devenue surréaliste. Je viens de laisser la garde de mon fils à quelqu'un que je ne connais que depuis 2 bonnes semaines, et je suis allongée sur le pont d'un petit bateau, au beau milieu de nulle part, à côté d'un homme, sous une couverture, dans un hôtel à 10 milliards d'étoiles. Quel luxe ! Tout ça, sans savoir si l'homme en question a prévu de me sauter dessus sans autre forme de procès, ou s'il se contentera simplement, comme il le dit, de partager sa passion des étoiles avec moi. Je demande à voir. Ça pourrait bien me réconcilier avec l'espèce humaine, surtout sa part masculine. Ça existe, sur cette pauvre terre, des hommes capables d'une telle réserve ? Pour l'instant, je suis simplement dans ses bras. Il semble endormi. Il a encore un peu pleuré. Les hommes sont pires que des oignons pour le nombre d'épaisseurs. Ou alors, il avait un sacré stock à décharger du camion. Quelques gouttes salées de plus ou de moins dans l'océan, ça ne changera pas la face du monde. La sienne, sûrement que si, demain matin, parce qu'il aura les yeux fraîchement gonflés, et puis les autres jours, dans l'autre sens, parce qu'avec la pression qu'il sort maintenant, il aura moins les traits tirés. Je crois de plus en plus que c'était ma mission en venant ici. L'éplucher jusqu'au cœur. Je sers au moins à quelque chose. Et dire que ça ne changera rien à ma vie. J'ai la tête dans les étoiles, la main dans un portefeuille plein d'argent, je vis un rêve éveillé pendant quelques semaines, oui, mais après. Après, je vais retrouver le train-train d'une vie programmée, ma caisse, mes collègues, ceux que j'aime bien et les autres, ce connard de chasson, les rythmes de travail délirants que je ne supporte plus, la peur au ventre à chaque fois que je démarre ma voiture. Et qui s'en souciera ?